Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques. Le 7 avril, on célébrait la Journée mondiale de la santé, qui permet au monde entier de se pencher sur des problèmes importants de santé publique, dont la santé mentale fait partie, même si elle a désormais aussi une journée qui lui est consacrée en octobre. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale et d'intelligence artificielle avec nos invités. Ils sont trois à avoir accepté mon invitation. J'ai le plaisir de recevoir en studio le professeur Stéphane Mouchabak. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre au sein du service de psychiatrie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris et vous effectuez des recherches dans le domaine des nouvelles technologies et leur impact sur les soins en psychiatrie au sein de l'unité de recherche ICRAMSI Innovation à l'Institut du Cerveau. Avec vous, Yanis Constantinides, professeur de philosophie à l'école Boulle et d'éthique appliquée à l'espace éthique Île-de-France. Bonjour.
Bonjour Sophie.
À distance enfin, Laura Pignatel. Bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour.
Vous êtes maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste du sujet des neurosciences, sujet sur lequel vous avez rédigé votre thèse intitulée « L'émergence d'un neurodroit, contribution à l'étude de la relation entre les neurosciences et le droit », publié aux éditions Dalloz 2021 et qui a reçu la mention spéciale du jury du prix de la recherche ENM en 2020. Nous allons donc croiser avec vous les regards entre médecine, philosophie et droit. Bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques.
Il a 38 ans. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Pour les médecins, il est fou.
Qu'est-ce qui a pu leur faire croire ça?
Ça tient pas debout leur truc, franchement.
Jack Nicholson et Matt Murphy dans le dernier film de Milos Forman.
Croyez-vous en votre fort intérieur que vous soyez mentalement touché?
Loin de là, docteur.
Excusez-moi, miss. Est-ce qu'il vous serait possible de baisser un peu le disque que vous passez pour que nous puissions parler entre nous?
Vous salissez la glace avec vos doigts.
Seigneur, vous croyez donc qu'elle suit tous vos va-et-vient?
Il a enfreint tous les règlements.
Il n'a qu'à changer, ça évite l'ennui. Ça met de la fantaisie.
Il défie les autorités.
Ah, c'est pas vrai, vous n'allez pas me faire ce coup-là. Vous n'allez pas me faire ce coup-là. Ne nous faites pas chier avec ça, quoi. Franchement, on a voté, le chef a voté, on était à 10 contre 9. Alors vous allez nous la brancher, cette télé, et tout de suite.
Je ne crois pas qu'il soit psychotique au sens strict.
Non, je veux que ça change.
Il serait dangereux.
Il défie l'ordre établi.
Nom de Dieu, à vous entendre, vous en avez marre. Tout le monde rouspète, vous dites tous assez de cette boîte et tout, et vous n'avez pas le courage de foutre le camp. Mais c'est pas vrai ça, mais qu'est-ce que vous imaginez? Vous êtes dingue ou quoi? Eh bien non.
Dans le film « Vol au-dessus d'un nid de coucou », Jack Nicholson défie en effet l'ordre établi dans un hôpital psychiatrique des années 60. Désormais, loin de cet univers, si ce n'était plus l'homme, mais la technique qui était en voie de révolutionner l'univers de la psychiatrie et la prise en charge du trouble mental. Au sens de l'Organisation mondiale de la santé, un trouble mental se caractérise par une altération majeure sur le plan clinique de l'état cognitif, de la régulation des émotions et du comportement d'un individu. Troubles anxieux, dépression, troubles bipolaires, schizophrénie ou encore troubles neurodéveloppementaux, il existe de nombreux types de troubles mentaux caractéristiques de problèmes de santé mentale qui touchent près d'un cinquième de la population, soit plus de 13 millions de Français selon les données de l'OMS. La France fait de la protection de la santé mentale une priorité de santé publique affichée depuis plusieurs années. Dès 2018, était lancée la feuille de route santé mentale et psychiatrie pour y apporter une réponse plus complète et cohérente, se donnant trois axes d'action prioritaires. Promouvoir le bien-être mental, prévenir et repérer précocement la souffrance psychique et prévenir le suicide. Garantir ensuite des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité. Enfin, améliorer les conditions de vie et d'inclusion sociale et la citoyenneté des personnes en situation de handicap psychique. En 2021, à l'issue de la pandémie de Covid-19, le process continua avec les assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Pourtant, la filière psychiatrique reste en grande souffrance, comme le reconnaissait encore le 24 janvier dernier Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités à l'Assemblée nationale. Si le numérique semble a priori loin du monde médical, les applications potentielles de l'intelligence artificielle en psychiatrie intéressent de plus en plus praticiens et chercheurs pour les perspectives offertes tant en termes de prévention et de dépistage qu'au plan de la recherche clinique ou thérapeutique. Quels seront, ce faisant, les enjeux pour le juriste? On en parle dans un instant avec nos invités.
Je suis...
Celle qu'on ne voit pas. L'anxiété, décrite dans cette chanson par la chanteuse Pomme, fait partie des nombreux troubles psychiatriques. L'IA pourrait-elle aider à y voir plus clair et à répondre à ces états de souffrance? C'est ce dont on va parler avec nos invités. Pour amorcer cet échange, c'est par une compréhension médicale du sujet que je vous propose de débuter. Schématiquement, on distingue des temps différents entre le diagnostic et la prise en charge thérapeutique. Alors, docteur Stéphane Mouchabak, je me tourne vers vous en premier lieu. Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre. Pour commencer, sans même aborder l'aspect numérique, question naïve peut-être, mais comment le praticien pose-t-il un diagnostic de trouble mental ?
C'est une question qui est fondamentale dans notre discipline et qui fait l'objet de nombreux débats, écoles. Mais comment raisonne-t-on ? En fait, vous allez avoir finalement une vieille histoire entre Platon et Hippocrate. Pour Platon, toute maladie est une catégorie qui existe en tant que telle, à partir desquelles on va composer le diagnostic. En gros, vous avez des symptômes qui vont être des problèmes de vie. Ces problèmes de vie, ça témoigne du dysfonctionnement de fonctions habituelles que l'on va compiler pour arriver à un nombre nécessaire et suffisant pour dire il y a un syndrome, donc une catégorie diagnostique. Sauf que, on a bien vu qu'à travers le temps, les noms ont changé, les catégories évoluent, donc ça nous interroge toujours quant à la fiabilité, validité de ces diagnostics. Et puis de l'autre côté, Hippocrate disait « toute pathologie est une extension de ce que nous sommes ». C'est des dimensions. Et finalement, on se dit, là, c'est intéressant de porter des diagnostics sur des dimensions qui nous composent. C'est normal d'être anxieux par moment, c'est une alarme qui nous protège, mais quand cette alarme sonne tout le temps, ça devient de la pathologie. Et on est sur une autre modalité de diagnostic, sauf qu'elle est compliquée à manipuler mentalement. Une catégorie, on sait ce qu'on sait, si on vous dit « lui, il est ceci », tout de suite, on comprend. Expliquer quelqu'un à travers des dimensions, c'est un petit peu plus dur. Donc vous voyez qu'on a plusieurs options possibles d'approche, mais pour résumer, ce que l'on va faire, on va prendre ce qui pose problème dans le fonctionnement d'un individu, généralement corrélé à un niveau de souffrance verbalisé ou non, et de dysfonction dans le quotidien, que l'on quantifie, on estime que ce sont des symptômes, on les réunit et on essaie de trouver le bon diagnostic. Sauf que ce n'est pas toujours évident.
Et alors dans tout ça, les utilisations de l'IA en psychiatrie au service du diagnostic, est-ce qu'on en a déjà ?
Alors c'est finalement, en gros, une des premières grosses applications sur lesquelles nous sommes, mais peut-être replaçons un peu un contexte actuel. Une innovation, elle peut avoir plusieurs visages. Elle peut être émergente, c'est-à-dire on est en train de compiler des techniques entre elles, un petit peu comme le portable, où on a mis un GPS, un écran tactile, beaucoup de mémoire, et on a fait émerger une nouvelle modalité d'utilisation. Les innovations, elles peuvent être disruptives, elles vous remplacent, ou elles peuvent être immatures. Et nous, on est quand même pas mal dans l'IA encore, dans de l'immature. C'est-à-dire que les idées sont bonnes, et nous essayons, pour le diagnostic, finalement, de faire quoi ? Bah, de distinguer des gens, des patterns, des biomarqueurs, faire des classifications pour dire bah, on a une catégorie A, une B, et maintenant un nouveau sujet à laquelle il appartient. Mais en pratique courante, nous ne l'utilisons pas de manière formelle. Ça reste encore aujourd'hui beaucoup à l'état expérimental, études, et ça devrait finalement gagner nos pratiques sous peu.
Ah, c'est intéressant, vous parlez du téléphone, donc je vais juste rebondir là-dessus avant de passer la parole à un autre invité. Mais dans un article en septembre dernier, je crois, en tout cas assez récent, vous écriviez qu'un psy pourrait se glisser dans nos smartphones, dans les données de nos objets connectés, pour en dire long sur notre santé mentale. Est-ce que c'est à ça que vous faites référence, que vous pourriez développer là-dessus ?
Alors, bien sûr que c'était
qu'est-ce qu'on a dans nos téléphones en lien avec cette santé mentale ?
C'était une figure un peu journalistique. En fait, on évoquait ce que nous appelons le phénotypage digital. Qu'est-ce qu'un phénotype ? Phénotypo, c'est ce qu'on observe, c'est finalement en médecine l'interaction d'une génétique et d'un environnement. Et donc, cette expression de cette interaction s'appelle le phénotype. C'est ce qu'on observe. Et Dawkins, un célèbre généticien, va publier un livre qui s'appelle « Le phénotype étendu » où il explique que, finalement, nos comportements ne sont pas qu'à l'intérieur, mais aussi affectent l'environnement. Et on peut lire l'image de nos comportements dans l'environnement. Un peu comme les castors vont modifier le cours d'une rivière par les petits barrages qu'ils font, qui est une expression de leur comportement. Et l'idée du phénotypage numérique, qui est sortie en 2015, hein, et puis a été appliquée en psychiatrie un an et demi après, c'est de dire que nous avons assez d'informations qui peuvent être collectées en temps réel, de manière passive, mais aussi active, le GPS, l'exposition à la lumière, le nombre de mails que vous envoyez, la nature des émoticônes, l'analyse du langage, bref, énormément d'indicateurs qui, couplés à une intelligence artificielle ou un algorithme bien entraîné, permet de faire des prédictions d'état. Mais ce que font déjà la majeure partie des algorithmes chez Google ou autre, qui est capable de tracer une signature numérique de nos comportements. Maintenant, on trace les comportements d'achat sur ces grands sites, mais nous, on va tracer des comportements pathologiques éventuels. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une mine d'or en termes d'informations que nous pouvons peut-être corréler à des états mentaux. Voilà.
Effectivement, le traçage de l'information et avec l'exemple que vous prenez sur l'aspect commercial, on a pu en parler dans une précédente émission, mais sous l'aspect santé mentale, ça interroge aussi. Alors, Yanis Constantinides, vous êtes professeur de philosophie et d'éthique appliquée. Votre regard m'intéresse là-dessus. Vous avez travaillé sur la notion d'acceptabilité sociale de l'IA. Alors de quoi s'agit-il par rapport à cet aspect diagnostique éventuellement dont on a pu commencer à parler ?
Oui, je rebondis sur ce que disait le professeur Mouchabak. Toute la question, c'est de comment on applique ces outils qui sont encore immatures, qui sont encore en phase expérimentale. Et quand on parle d'acceptabilité sociale, est-ce que ces outils font l'objet d'un consensus social large ? En fait, non, parce qu'ils sont mal connus encore. Enfin, ils sont connus extérieurement, ils sont connus par leur utilisation commerciale, mais pas encore par leur possible utilisation en médecine. Et donc, il y a plus qu'une acceptabilité sociale, je dirais un accord tacite par ignorance. Voilà, moi, j'appelle ça plutôt la bénédiction sociale.
Et alors ? Si on les applique à ce domaine spécifique de la santé mentale, parce qu'effectivement, c'est un constat qu'on a pour des outils d'IA mal connus dans d'autres applications. Est-ce que selon vous, au plan du diagnostic, ça peut être acceptable ? Quelles seraient, vous, les réticences que vous auriez à appliquer à cette utilisation concrète ?
Voilà, alors les philosophes sont spontanément technophobes.
C'est pas forcément c'est pourquoi je vous invitais, mais un peu quand même.
Et je ne voudrais pas que le professeur Mouchabak me compare au psychanalyste auquel il a forcément affaire sur la question de l'utilisation de l'IA, contre laquelle il pousse toujours des cris d'orfraie. absolument effarouché, sans forcément connaître même ces applications-là. Donc, moi, je dirais de manière plus nuancée que, comme disait Bernard Stiegler, le philosophe spécialiste de la technique, c'est un pharmacon, les nouvelles technologies, l'IA en particulier. C'est-à-dire, c'est un mal et un remède à la fois. Il pourrait y avoir, à mon sens, des usages de l'intelligence artificielle rapidement santé mentale, surtout que c'est un domaine. Alors, je suis d'accord avec vous, hein, il faut être hippocratique ici, c'est-à-dire la santé mentale n'est pas décorrélée de la santé physiologique, bien sûr. La médecine occidentale a décidé de séparer les deux domaines par commodité aussi, en spécialisant. Mais évidemment que les troubles mentaux ont aussi une incidence sur le corps et que le corps n'est pas étranger aux troubles mentaux. L'anxiété dont on parlait tout à l'heure, c'est un effet du stress dont Célier montrait déjà dans les années 30 que c'était d'abord une réaction du corps, une réaction physiologique d'alarme. Voilà. Donc on doit voir les choses dans la continuité, à mon avis, les troubles mentaux dans la continuité d'un déséquilibre du corps. Enfin bref. Donc l'intelligence artificielle ici peut être utile, mais il faudrait faire très attention, à mon avis, à la manière de l'implémenter. Parce que le risque de ces technologies, ça a été beaucoup montré par les spécialistes américains, notamment comme Donald Ide, c'est que on soit pris par la logique d'utilisation de l'outil. Et l'IA n'est pas un outil neutre, voilà, je l'ai souvent dit, il impose une logique d'utilisation qui lui est propre.
Est-ce que Stéphane Mouchabak voulait réagir avant que je cède la parole à Laura Pignatel ?
Je rebondis sur la notion d'acceptabilité, puisque c'est un des champs d'exploration que nous, sur lesquels nous travaillons. Et on s'était toujours dit qu'un outil qui n'est pas compris et accepté est un outil qui sera inutile et qui ne sera pas utilisé. Et explorer l'acceptabilité, ce qui se faisait beaucoup en interface homme-machine, hein, ce sont des vieux travaux, c'est un prérequis. Mais simplement, il y a une manière d'explorer ce lien IA et psychiatrie. C'est probablement un petit peu différent qu'une interface UX, comme disent les développeurs, sur un smartphone. Et on avait travaillé avec une méthodologie avec des sociologues spécialisés dans la culture de métier, et nous étions rendus compte qu'il y avait des catégories. Bien sûr que le médecin psychiatre qui bosse dans un CHU et qui est technophile va accepter beaucoup mieux ces outils. Et puis des gens très réticents. Eh bien, dans notre étude, c'était sur presque 600 psychiatres en France, hein, de tout âge et toute orientation, on avait une catégorie très réticente, dont les médecins psychiatres qui font du médico-légal et les pédopsychiatres. Pourquoi ? Parce que la prédiction était quelque chose de compliqué à intégrer. Et on s'était rendu compte que aussi, les gens n'étaient pas contre de principe. Mais souvent, ils ne connaissaient pas, finalement, assez ces outils. Et on avait des réflexions plaquées, ça pourrait être mal pris, mais assez automatiques, de peur, par rapport à ces outils qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est une vieille réaction humaine. Et donc, l'acceptabilité est un champ fondamental à explorer aussi pour que ces outils soient utilisés à bon escient. On a devant nous un pouvoir magique, presque. Et comme tout pouvoir, il peut être utilisé par des magiciens noirs ou des magiciens blancs. C'est-à-dire, on peut être, en faire quelque chose d'extraordinaire comme quelque chose de très inquiétant. Et c'est pour ça que je vais vraiment dans ce sens de l'acceptabilité, qu'elle soit pratique ou sociale, qui est un outil d'exploration nécessaire pour qu'on n'ait pas le sentiment qu'on nous impose des outils qui nous contrôlent.
Après, pour inverser la charge de la preuve, peut-être que certains psychiatres sont trop spontanément technophiles et n'ont pas assez de recul critique par rapport à ces outils-là.
Tout à fait.
Alors vous m'offrez une transition parfaite entre acceptabilité et preuve pour glisser vers un autre aspect du sujet, mais extrêmement lié aussi. Laura Pignatel, c'est avec vous que je voudrais questionner une autre chose sous un angle un peu plus spécifique. Vous avez pour votre part étudié la question du recours aux neurosciences en matière pénale. Donc là, c'est l'acceptabilité peut-être du juriste qu'on va questionner. Et la question posée en ces termes dans l'un de vos articles est la suivante. Une lésion cérébrale peut-elle déterminer un comportement antisocial pouvant générer de la criminalité ? Donc là, ce dont on va parler, c'est l'utilisation en fait de techniques à terme au service de la preuve aussi en matière pénale. Mais avant de parler de numérique et en son sein donc de l'IA, on peut se tourner vers les neurosciences pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Est-ce que Laura, vous pourriez nous expliquer les travaux que vous avez menés sur ces aspects ? Lié au neurodroit.
Oui, bien sûr. Alors, Si je devais simplifier tout d'abord ce que sont les neurosciences, hein, puisque les neurosciences sont un ensemble de sciences extrêmement variées et différentes qui étudient le fonctionnement de notre cerveau depuis des aspects biologiques et chimiques jusqu'aux aspects les plus fonctionnels comme la personnalité, les comportements, les émotions, les pensées. Et donc les neurosciences, elles permettent de mieux appréhender le comportement humain grâce aux progrès réalisés en matière d'imagerie cérébrale et notamment de l'IRM que tout le monde connaît, même si l'IRM, il y a deux grandes techniques, l'imagerie, l'IRM anatomique et l'IRM fonctionnel, qui sont deux techniques d'imagerie cérébrale qui permettent de voir à la fois l'anatomie et le fonctionnement du cerveau. Et donc, pour bien comprendre en fait l'apport des neurosciences, très souvent dans l'histoire des neurosciences, on cite un cas, je ne sais pas si vous le connaissez d'ailleurs, c'est le cas de Phineas Gage dans les années 1850.
Alors on fait oui de la tête en studio, expliquez-nous ce cas.
Donc Phineas Gage, en fait, dans les années 1850, il manipula une barre de fer et une explosion, enfin une barre à mine très exactement, une explosion se produisit. Et à la suite de cette explosion, la barre de fer lui traversa le visage au niveau de la joue et de l'œil gauche, ce qui a perforé évidemment son crâne. Et la victime fut immédiatement prise en charge. Et malgré la gravité de sa blessure, elle survécut. Mais quelques mois après cet accident, alors que Phineas Gage était jusque-là sérieux, attentionné, social, poli, il devint l'opposé de ce qu'il était jusqu'alors, et notamment impulsif, insouciant, asocial. Et donc, il vécut très longtemps avec ses troubles de la personnalité. À sa mort, aucun médecin, hein, puisque à l'époque, ne procéda à l'examen post-mortem de son cerveau. Et il faudra attendre les années 90-2000 pour que des scientifiques reconstituent grâce à des ordinateurs et des logiciels puissants la trajectoire exacte hein, de cette barre, et ils concluent que le lobe frontal avait principalement été touché, ce qui pouvait expliquer une modification de sa personnalité. Et donc, à partir de cet exemple, on comprend hein, pourquoi finalement le droit a pu s'intéresser aux techniques neuroscientifiques, et notamment aux techniques d'imagerie cérébrale, pour déchiffrer et mieux connaître la personnalité d'une personne à l'occasion d'un procès notamment.
Et si on fait le lien ici alors avec la responsabilité pénale, parce que l'exemple que vous citez est particulièrement intéressant, par rapport à cette notion de responsabilité pénale pour le juriste, que je vais peut-être vous demander de réexpliciter pour l'ensemble des auditeurs, en quoi ces techniques, neurosciences ou à terme la LIA dont on va parler, peuvent être utiles dans le cadre d'un procès pénal ?
Les neurosciences, en tout cas pour ce que j'ai étudié, hein, s'intéressent évidemment à la notion de responsabilité en des termes différents. Les neurosciences parlent notamment d'agentivité. Pour faire simple, c'est comment une personne se sent agent hein, de son comportement. On y retrouve l'étude des fonctions cognitives importantes, donc le processus de prise de décision, l'agentivité, la théorie de l'esprit, etc. Et donc, il y a des parallèles évidemment avec la notion de responsabilité au sens juridique du terme. Et donc, les neurosciences, en s'intéressant à l'étude des fonctions cognitives, permettent de mieux comprendre comment une personne est responsable ou irresponsable, très concrètement grâce à l'image d'un cerveau qui permet par exemple de prouver l'existence d'une tumeur hein, dans une région précise du cerveau. La question se pose de savoir si cette image peut être utilisée pour objectiver l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique qui a des conséquences sur la responsabilité. Est-ce que l'agent, au moment où il a commis les faits hein, en matière pénale, avait totalement son discernement ? Est-ce qu'il avait cette volonté de comprendre et de vouloir son acte ? En cela, les neurosciences, elles peuvent apporter des réponses.
Alors c'est effectivement sûrement cette distinction qu'on peut rappeler. C'est pour établir la responsabilité pénale d'une personne, on a ces deux composantes nécessaires de façon cumulative. L'aspect culpabilité, donc avoir effectué l'acte au plan matériel avec un élément moral. Et cet élément moral peut effectivement, comme vous le dites, sauter du fait d'une cause d'irresponsabilité pénale. Et donc là, du point de vue de l'imputabilité, il manque un biais, un point de la responsabilité pénale. Stéphane Mouchabak, si on part du postulat que le fonctionnement du cerveau inspire ici l'architecture des réseaux neuronaux artificiels des IA, et que l'intelligence artificielle améliore en fait d'une certaine façon les neurosciences, est-ce que vous pensez que ces techniques médicales pourraient avoir une pertinence, comme expliqué par Laura Pignatel, au service de la preuve en matière pénale ?
Alors, oui, et avec difficulté. On part du principe que la majeure partie de ces modèles sont basés sur des probabilités. Et ce qu'on demande à quelqu'un, c'est pas nécessairement une notion de probabilité, mais une certitude. Or, une probabilité n'est pas une certitude. Donc c'est là où déjà on va avoir quand même des petits soucis. Pourquoi ? Parce que ces modèles en IA, c'est simplement, oui, c'est un ensemble de probabilités et qui vont prédire des comportements. En même temps, il y a d'autres niveaux. Ils ont été évoqués avec le cas de Finas Gage. Effectivement, l'imagerie structurelle peut permettre de montrer s'il y a une tumeur frontale qui va altérer la décision et autres. Et là, c'est nécessaire et suffisant. L'IA, ça va être un autre débat puisqu'on va faire de la prédiction. On va essayer de prédire si oui ou non un comportement va être présent, peut se reproduire. On va aussi, avec cette IA, distinguer des patterns de gens. Et c'est là où ça devient un petit peu compliqué, parce que est-ce qu'on peut distinguer sur une IRM de la morale des individus ? Et donc, on va aller explorer, par exemple, des fonctions qui sont des fonctions très importantes qui ont été un petit peu abordées, telles que l'empathie, cette capacité que j'ai à simuler les états mentaux de l'autre, l'empathie, mais aussi la prise de décision, la gestion des conflits, la gestion de la frustration, l'impulsivité, qui, au bout d'un moment, vont être compilés pour faire des prédictions sur des états qui eux-mêmes sont associés avec des faits potentiels ou actuels. Et donc ça, c'est véritablement quelque chose qui est dans l'absolu possible, mais avec toujours une marge d'incertitude aujourd'hui qui est acceptable ou non. Et on retombe encore une fois sur ces notions d'acceptabilité. Qu'est-ce qu'une société est prête à accepter en termes d'incertitude pour gérer ces éléments-là ? Mais oui, pour certains auteurs, un ami qui est très impliqué dans toute la vulgarisation de l'IA, Stéphane Mallard, dit que le cerveau est un algorithme qu'il reste plus qu'à craquer. Quelque part, nous avons un fonctionnement algorithmique, nos prises de décision sont algorithmiques pour beaucoup, très automatisées, parce qu'on interroge aussi la notion du libre-arbitre. Est-ce que nos décisions ont une intention qui est première, ou est-ce que l'intention naît de l'action ? Et ça, finalement, l'imagerie cérébrale peut nous permettre peut-être de savoir à quel moment une décision a été prise, comment. Le souci, c'est que l'imagerie, qu'on a quand même très magnifiée dans ma discipline, hein, faut imaginer une chose, c'est que la médecine fait une grande explosion de connaissances quand elle fait de l'anatomie et de l'histopathologie. On voit les organes et on voit comment ils fonctionnent, puis ils dysfonctionnent. Et là, on commence à comprendre un peu mieux que la majeure partie des théories qui étaient en cours depuis 15 siècles, elles ne sont pas toujours valides. Mais la psychiatrie, on ne peut pas ouvrir le cerveau de quelqu'un comme ça au 19e siècle et voir ce qui se passe sans tuer les gens, donc ce n'est pas quand même le but. Et on va avoir un outil dans les années 80 qui va apparaître, l'imagerie. Et donc pour nous, ça va être une manière d'observer. Sauf que, ce qui est quand même dit par beaucoup d'auteurs, on a conclu à partir de l'imagerie sur des échantillons souvent très faibles, avec des conditions statistiques, ce fameux petit p, qui finalement n'est pas toujours suffisant pour avoir véritablement une vision de ce qui se passe de manière plus formelle. Donc, outil extraordinaire, mais sur lequel on a quand même un premier temps scientifique, finalement, qui est remis en question dans pas mal de tâches. Aujourd'hui, l'avantage, nous sommes sur des mégabases. C'est-à-dire que les gens commencent à compiler leurs données, ce qui n'est pas évident pour les scientifiques qui sont en compétition.
On augmente la base de données initiale.
On l'augmente par essence, parce que sinon on ne peut pas entraîner l'algorithme correctement. Et on commence à avoir un niveau de prédiction plus important. Par exemple, il y a des travaux qui sont d'une équipe allemande, de Koutsouleris, où on prend ce qu'on appelle des états mentaux à risque. Alors, ce n'est pas à risque de commettre un crime, hein. C'est à risque, par exemple, de faire une transition vers la psychose, donc une schizophrénie. Ces états mentaux sont des gens qui sont plus à risque que les autres. Pourquoi ? Ils ont des critères cliniques, environnementaux, etc. Eh bien, avec un algorithme très entraîné, en imagerie cérébrale structurelle, en fait, on fabrique un cube d'un million de points sur un million de points. L'informatique va traiter ça avec plus de facilité que l'humain. Il distingue des patterns qui semblent en lien avec la maladie ou non, et au bout d'un moment, un état à venir ou non. Et plus la base augmente, plus la précision augmente. Moi, en tant qu'humain, si je dois raisonner comme ça, j'ai une chance sur deux de me planter. Son algorithme, à l'heure actuelle, il est à 94% de réussite. Donc finalement, ces modèles, on peut les appliquer à tout. Et on peut les appliquer aussi à la récidive, à dresser un portrait neuroscientifique de quelqu'un sur son niveau d'empathie, etc. Mais est-ce que ce niveau-là va ou non générer un acte? Et ça, c'est compliqué.
Alors ça, sur l'aspect prédiction,
ouais, on
prédiction,
après.
Récidive, éventuellement, on va en reparler en fin d'émission. En quelques mots de réaction, éventuellement, Yanis Constantinides, on a reparlé acceptabilité sociale. Est-ce que je suppose que ça évoque la même chose que les réticences que vous évoquiez tout à l'heure?
Voilà, ce que dit Stéphane Mallard et ce que dit Stanislas Dehaene aussi me fait un petit peu peur, je ne vous le cache pas. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Stanislas Dehaene, le grand professeur de neurosciences, avait dit « bientôt on pourra lire dans le cerveau comme un livre ouvert ». Et là, est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre l'aspect extérieur, enfin la description extérieure? Parce que vous l'avez bien dit, hein, avec Bichat, avec l'anatomie, on a réussi à voir le corps de l'intérieur et puis on n'a plus besoin de l'ouvrir parce qu'on pouvait le voir avec l'imagerie. Mais est-ce qu'on peut, vous l'avez dit à la fin sur la question de la prédiction, c'est parce qu'on a un état mental à risque que l'on va passer à l'acte. Voilà, c'est là un petit peu l'inconnu, le facteur humain, si j'ose dire, imprévisible. Parce qu'on peut prédire que la possibilité de... Voilà. Et je l'ai vu aussi récemment dans les addictions. Je termine sur les addictions, c'est-à-dire ce modèle neurobiologique aujourd'hui très puissant qui monte dans les addictions parce que c'est une manière d'objectiver l'addiction. Mais on passe à côté justement de la part de responsabilité de la personne dans son addiction. Et ce n'est pas parce qu'elle est à risque, certains sont plus à risque que d'autres bien sûr, de développer des comportements addictifs, qu'elle va forcément passer à l'acte ou qu'elle va forcément guérir. Ou, voilà. Donc il y a cette tentation, je pense, qui est quand même de... avec l'objectivation, avec les modèles prédictifs, etc., de réduire un peu quand même l'aspect subjectif du comportement humain qui n'est pas modélisable.
Et alors pour votre part, Laura Pignatel, entre subjectif et objectif, pour la part du juriste, vous avez, je l'ai dit, étudié les neurosciences au sens large, vous l'avez vous-même expliqué, à titre probatoire, en émettant certaines critiques d'ailleurs dans leurs utilisations sur l'aspect subjectif parfois de leurs conclusions. Est-ce que vous feriez une différence juridique entre l'IA et les neurosciences à cet égard? Est-ce qu'on pourrait, en termes probatoires, en faire une?
Oui et non. C'est, effectivement, c'est le recours aux neurosciences à titre probatoire, je l'ai fortement critiqué et pourtant j'ai changé d'avis sur le sujet. Hein. Autant au début de mes recherches, j'étais fascinée par ces techniques et je remercie mon co-directeur de thèse spécialiste en neurosciences hein, qui m'avait dit « attention Laura », et c'est comme ça que j'ai pu mesurer les dangers, mais il y a un risque. Aussi bien pour l'IA et les neurosciences, parce qu'on pourrait considérer qu'il n'y a pas de différence entre les deux, tant il s'agit en fait de preuves scientifiques. Et le danger de ces nouveaux modes de preuve, il est double, on l'a dit. Ce sont des outils immatures. Et donc se pose la question de l'efficacité, de la fiabilité de ces outils. Mener des recherches en laboratoire, ce n'est pas la même chose qu'utiliser ces techniques dans des conditions réelles et notamment à l'occasion d'un procès et plus particulièrement d'un procès pénal. Le danger aussi, c'est la conviction qu'entraînent ces outils, leur degré de vraisemblance, pour ne pas dire de transparence, hein, faire croire que l'on pourrait effectivement voir dans le cerveau comme si on pouvait voir dans une boule de cristal. Et puis il y a des problèmes, finalement, les deux, je pense, des problèmes en termes de temporalité aussi, puisque dans un procès pénal, on se pose la question d'actes commis à l'instant T, et lorsque l'on va utiliser ces techniques, c'est à l'instant T plus 1. Et donc, le cerveau n'est pas dans les mêmes configurations. Après, je ne suis pas spécialiste d'intelligence artificielle, mais je me demande si, à l'inverse, on pourrait considérer qu'il y a une différence entre les deux. Et là, je schématise, je vulgarise hein, vraiment. On pourrait dire que les neurosciences, elles sont plutôt un horizon immense en fait de sous-disciplines qui étudient la cognition humaine. Et donc, l'image d'un cerveau, elle s'appuie sur des considérations liées à la physique, les mathématiques, l'informatique, mais elle s'enracine aussi dans la médecine, la psychologie ou la philosophie. En bref, on pourrait presque dire que les neurosciences, elles sont plus une science humaine, j'allais dire, alors que l'IA, en s'intéressant à la cognition artificielle avec les sciences et technologies de l'information, de l'ingénierie, des mathématiques, s'apparenterait plus à une science, mais j'ose à peine le dire, hein, réelle ou dure, entre guillemets. Hein. Mais bon, Si je devais résumer, je dirais non, qu'il y aura, il n'y a pas essentiellement de, il n'y a pas de grande de différence entre l'IA et les neurosciences, en fait, parce qu'elles présentent les mêmes dangers, les mêmes enjeux aussi, mais surtout les mêmes dangers.
Et on évoquait avec les invités, avec moi en studio, la question de la société, de ce que la société est prête à accepter. Pour votre part, dans les études que vous avez menées, la situation à l'étranger, qu'est-ce que ça donne? Ces techniques, elles sont aussi utilisées à l'étranger au plan probatoire, Laura Pignatel?
Eh bien, je dirais qu'elles sont utilisées seulement à l'étranger et pas en France. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Hein. Mais à l'étranger, la situation est bien différente parce que déjà, les systèmes juridiques sont différents. Dans les systèmes où la procédure est de type accusatoire, donc c'est-à-dire avec des batailles d'experts, comme on voit dans les séries, et notamment les séries américaines, aux États-Unis, la preuve neuroscientifique, elle s'invite dans les prétoires depuis les années 90. Et elle est utilisée dans différents contextes, hein, aussi bien au civil qu'au pénal. Il peut s'agir par exemple des litiges qui opposaient la Ligue nationale de football américain aux joueurs professionnels pour démontrer, il y a eu un film d'ailleurs sur la question notamment, pour démontrer la dangerosité du football américain et montrer l'existence de commotions cérébrales importantes. Et dans les procès criminels, eh bien, souvent la défense invoque des clichés d'imagerie cérébrale pour appuyer une demande d'atténuation de la responsabilité. Après, l'exemple le plus connu à l'étranger, car très médiatisé, hein, c'est un exemple en 2008 en Inde et qui concerne une jeune femme, c'est l'affaire Aditi Sharma. L'exemple, il peut faire sourire et en même temps, il peut donner la chair de poule, hein, puisque cette jeune femme, en fait, était accusée du meurtre de son petit ami qui était décédé après avoir mangé un hamburger empoisonnée à l'arsenic. Et donc, elle était accusée, hein, poursuivie pour empoisonnement. Elle niait les faits et elle avait accepté de se soumettre à un examen d'imagerie cérébrale un peu particulier, hein, qui consistait en fait à poser sur sa tête un ensemble d'électrodes et à répondre à des questions. Et si vous voulez, pour vulgariser, c'est une sorte de méthode d'empreinte cérébrale. Un peu comme le polygraphe, sauf qu'à la différence du polygraphe, la personne n'a même pas à parler. C'est simplement en regardant les images, on voit comment son cerveau réagit et on mesure une onde émise par l'activité électrique de son cerveau. Et cette preuve, elle avait été utilisée comme principale preuve à charge. Mmh. Et cette jeune femme fut condamnée à la prison à perpétuité. Heureusement, hein, la Cour suprême d'Inde est revenue sur cette décision et avait déclaré l'utilisation de cette preuve contraire à la Constitution.
Ouais, effectivement, donc on voit que dans le procès pénal, la question reste complexe avec des enjeux quand même assez importants. Peut-être pour aller sur une autre utilisation de l'IA dont on n'a pas parlé parce que le temps nous manquera ensuite, la question du traitement du trouble mental. Au plan thérapeutique, Stéphane Mouchabak, quelles améliorations offre l'IA ici? On a beaucoup parlé du diagnostic, on en reparlera dans un instant, mais plan thérapeutique.
Alors pour le traitement, l'IA. Alors c'est vrai que l'IA, faut la démystifier un petit peu parce qu'on a l'individu, on a le sentiment que c'est un individu qui agit pour son propre compte, vivant à côté. C'est pour l'instant quelque chose qui calcule juste plus vite que nous et un peu mieux parce que les capacités sont plus fortes. Nous n'avons pas une conscience. Passer une matinée avec ChatGPT à lui demander s'il est conscient de ce qu'il fait, il vous répétera non. Et pourtant, nous avons le sentiment qu'il vit. Alors pour nous, en matière thérapeutique, c'est là pour le coup quelque chose de très intéressant. Intéressant, probablement un peu plus avancé, puisque nous sommes capables de traiter des grandes bases de données, par exemple de pharmacogénétique, c'est-à-dire comment quelqu'un va réagir ou non à un médicament, de critères cliniques spécifiques, bref, de faire un grand nombre de classes pour lesquelles on trouvera peut-être un petit peu mieux le médicament ou la thérapeutique adéquate. Par exemple, on avait proposé un modèle qui recueille en temps réel des biomarqueurs, qui peuvent être vocaux, qui peuvent être comportementaux, exposition à la lumière, qui vous avez appelé, etc. Bref, et en fonction de ce modèle, le conseil thérapeutique le plus adapté. Et là, nous travaillons sur ce que nous appelons des réseaux de symptômes. Les réseaux de symptômes, c'est quoi? C'est de dire que finalement, les symptômes ne sont pas non liés entre eux. Et que peut-être, pour arriver jusqu'au symptôme tristesse, il ne va pas émerger comme ça, mais il y a des chemins. Je peux être triste parce que je viens de perdre mon travail, donc je perds mes amis, donc je perds de l'argent et j'arrive à la tristesse. Mais je peux être triste aussi parce que j'ai une maladie. Et on voit bien que les symptômes sont aussi organisés entre eux avec des liens de causalité. Et ça, les modèles informatiques nous aident à bien se représenter cela, que nous pouvons coupler à des données qui sont des données, pour le coup, assez objectives, pour faire qu'à travers ce réseau, on traite avec une très bonne spécificité, qu'on ne traite pas des gens pour rien. Parce que raisonnons souvent en matière médicale. Vous allez avoir, imaginez que vous soyez dans le sud, tiens, et vous faites un barbecue. Et il prend feu. Vous appelez les pompiers, je ne veux pas faire un feu de forêt. Il vous dit, on arrive. Et là, vous entendez un bruit, deux hélices, et un canadair vous balance 6 tonnes de flotte sur le jardin. Alors, il n'y a plus de feu, mais il n'y a plus de maison non plus. Alors que s'ils viennent avec un petit jet d'eau, et précisément, ils touchent les choses, bah, vous allez avoir une extinction du barbecue, et tout le monde est content. Eh bien, traiter de manière personnalisée, de manière spécifique, de manière individuelle, pour le coup, ça, c'est une véritable opportunité que l'IA nous offre. Et surtout, ça, c'était une deuxième proposition que nous avions faite dans un article, nous sommes en médecine quand même soumis à des biais. On fait tous des erreurs au quotidien. 98% de nos décisions, en gros, sont prises souvent de manière assez automatique. C'est des heuristiques qui sont ancrées dans notre génome cérébral depuis toujours, et grâce à qui on fonctionne très bien. Eh bien, on fait quand même des erreurs. On peut avoir une idée préconçue, on peut avoir des arguments d'autorité, biais d'ancrage, etc. Et finalement aussi, ces outils-là nous aident à corriger, à contrôler certaines erreurs, tout en sachant que l'IA elle-même peut générer des erreurs. Donc maintenant, moi je reviens à un point, c'était Churchill à qui on attribue beaucoup de choses, mais disait « si on ne prend pas un changement par la main, il vous prend à la gorge ». Il est imparable qu'on intègre dans nos approches thérapeutiques, diagnostiques, ce qu'on veut, ces modalités, parce que sinon, on passe à côté d'une opportunité énorme. Par contre, comme on l'a évoqué, pour que ça soit acceptable, il faut qu'on ait quand même un grand niveau d'efficience, de certitude, de gestion du risque. Et ça, c'est le débat actuel.
Et une fonction peut-être dont on n'a pas beaucoup parlé, ou enfin qui découle quand même de cet aspect de traitement automatique de ces données nombreuses, c'est la question du traitement automatique de la langue. Et on a des outils qui sont aujourd'hui utilisés pour... par des agents conversationnels aider le patient en souffrance. Alors je pense aux agents conversationnels qu'on peut avoir pour proposer une assistance thérapeutique. Donc si je suis vos idées, on est sur une perspective d'amélioration dans la prise en charge ici. Mais si je me tourne vers le philosophe, cet aspect au plan éthique a aussi été questionné parce qu'on a eu des agents conversationnels utilisés par des personnes comme ça en souffrance dans un cadre non médical, dans l'exemple que je vais prendre. Donc c'est ce qui va différer. Mais je prends l'exemple en Belgique, il y a un nom d'un homme qui avait établi un dialogue pendant plusieurs années avec un chatbot nommé Elisa pour se confier sur son état de co-anxiété et l'homme s'était finalement suicidé et à l'issue de ce suicide, sa femme avait dénoncé le rôle qu'avait pu avoir l'IA dans cet acte en renforçant son état dépressif par les réponses que l'agent conversationnel lui avait apportées. Alors encore une fois, c'était un cadre non médical, il le faisait depuis chez lui, donc c'est différent. Mais Yanis Constantinides, est-ce que vous voulez réagir à cette utilisation-là en termes de... éthique, évidemment, l'utilisation de l'IA et de ses agents conversationnels questionne.
Voilà, ce n'est pas du tout les mêmes questions que celles que vous évoquiez, mais effectivement, il y a un grand problème aujourd'hui qui est que l'absence de psychiatres, la pénurie de psychiatres fait qu'on multiplie ces agents conversationnels et qu'il y a une grande volonté en Inde, aux États-Unis, etc., de screener les réseaux sociaux, Reddit, Twitter, etc., pour détecter, alors ils ont un score, etc., pour détecter les risques de passage à l'acte, notamment suicidaire. Et c'est, je pense que ce n'est pas involontaire. Le fait que, ça s'appelle Elisa, ça me rappelle le premier chatbot de Joseph Weizenbaum dans les années 60, qui s'appelait Elisa déjà. Et Joseph Weizenbaum, qui est un peu un repenti de l'intelligence artificielle, qui était un chercheur au MIT absolument génial, a écrit des livres pour dire « Attention, ce que je n'avais pas prévu, c'est que les gens allaient projeter des sentiments sur Elisa, qui était quelque chose de très fruste dans les années 60, bien sûr. » Et sa femme même était pensait que cette machine était empathique parce qu'elle était formée avec le modèle rogerien de réponse humaine, inconditionnellement positive, etc. Donc, pour vous répondre rapidement et précisément, le risque ici, c'est comme pour Replica. Il y a un scandale avec ce logiciel récemment, Replica, qui était une sorte d'ami virtuel. Et le fait qu'on ait arrêté une fonction, on va dire, pornographique, a fait que les gens sont tombés en dépression, mais réellement. Alors qu'on imagine, c'est un peu comme dans le film Her, on imagine que c'est impossible d'attribuer des sentiments humains à l'IA. Mais en fait, moi je dirais, là encore, c'est pas la faute de l'IA, c'est que cet outil-là provoque. C'est notre faute, en quelque sorte, c'est que nous projetons de l'empathie sur l'IA. Et c'est là où on a besoin d'une garantie, d'une surveillance de ces outils qu'on a tendance, encore une fois, à mettre en place avant d'évaluer leur dangerosité.
Alors, pour terminer peut-être cet échange, parce qu'on aurait encore beaucoup à dire, mais le temps va nous manquer, c'est sur un point qu'on a évoqué, que je voudrais qu'on finisse. Vous avez spontanément tout à l'heure parlé de la prédiction quand on était sur l'aspect diagnostique. Effectivement, l'aspect prédiction du trouble mental, ce qu'on va nommer cette neuroprédiction, questionne particulièrement, et c'est sur l'aspect juridique que je voudrais qu'on finisse. La compréhension et l'appréciation de la dangerosité pénale a animé les débats doctrinaux chez les pénalistes depuis longtemps. On a une appréciation du critère de dangerosité qui est en principe l'apanage du juge, avec une appréciation d'éléments objectifs de la personnalité du délinquant. Mais on se souvient quand même qu'au XIXe siècle, on a une vision qui était plus scientifique de l'appréciation de la dangerosité pénale, qui était portée par l'école positiviste italienne. Alors Laura Pignatel, dernière question pour vous. En repartant peut-être de ces courants de pensée, est-ce que vous diriez que l'immixtion de l'IA dans le procès pénal interrogera sur la pertinence de cette individualisation scientifique ?
Oui, enfin, vous me demandez mon avis, hein, donc je dirais oui. Oui, bien sûr, parce que... Des questions, elles refont systématiquement surface, hein, comme la possibilité de distinguer les délinquants, les non-délinquants, les personnes dangereuses, les personnes pédophiles, etc. Alors la théorie de Lombroso au XIXe siècle, elle peut faire sourire aujourd'hui, hein, lui qui mesurait hein, la forme du crâne pour déterminer la propension à la délinquance. Après, je pense qu'elle a eu le mérite de poser des questions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se demander si on ne signe pas hein, le retour à la théorie de Lombroso. Et parce que les neurosciences et l'IA, elles s'intègrent dans un nouveau paradigme. Alors, ce n'est pas nouveau parce que ça l'était aussi avant, hein, mais de l'explication biologique des comportements. On ne chercherait plus la bosse du crime en palpant et en mesurant le crâne, mais... On voudrait à tout prix les visualiser, les prédire grâce à l'IA et aux neurosciences. Alors, est-ce que c'est pertinent ? Peut-être, à condition que ce soit bien maîtrisé, à condition qu'on ait une utilisation entourée de toutes les garanties, aussi bien scientifiques et juridiques, finalement. Donc, l'IA et les neurosciences pourraient permettre d'asseoir l'expertise psychiatrique, sur une base plus scientifique, mais à condition... que l'outil soit bien maîtrisé et pris pour ce qu'il est finalement.
Merci beaucoup. Je crois que sur cet aspect, effectivement, maîtrise et acceptabilité sociale, les points rejoignent l'avis des deux invités qui sont avec moi. Merci encore à tous les trois pour ces échanges très riches. Le temps nous manquera pour continuer les questions, mais je pense qu'on pourra refaire une émission sur ce sujet. Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci.
Where is my mind? Pour cet extrait de Placebo. On va tâcher maintenant de retrouver nos esprits pour terminer cet échange avec une lecture issue de l'introduction de l'ouvrage de Serge Tisseron, Petit traité de cyberpsychologie, paru en 2019.
L'IA suscite un nombre considérable de fantasmes. Elle est même parfois comparée à Dieu, ce qui en dit long sur ses pouvoirs de fascination. Or, les fantasmes humains sont à prendre au sérieux. Leur origine plonge dans l'imaginaire, certes, mais leurs conséquences peuvent impacter considérablement la réalité. Dans les interactions que nous allons établir avec les objets dotés d'IA, comprendre nos attentes et nos réactions à leur égard va devenir un élément essentiel. De nouvelles pathologies apparaîtront, liées notamment au fait de vouloir développer avec les robots les mêmes formes d'interaction qu'avec les humains, et de ne pas y parvenir, à moins que ce ne soit l'inverse. Vouloir établir avec les humains les mêmes formes d'interaction qu'avec les robots, et y parvenir encore moins. D'autres pathologies, qui semblaient inscrites à tout jamais dans la nosographie, comme la conviction qu'une machine s'adresse intimement à nous, pourraient s'effacer devant les possibilités technologiques. Des réactions inattendues surgiront, qu'il ne faudra peut-être pas trop vite qualifier de délire, et auxquelles certains seront même tentés de donner un nouveau statut de normalité.
Question ouverte, désormais, l'IA, ici, présentée à l'origine d'un nouveau trouble psychiatrique. Vous en pensez quoi, Stéphane Mouchabek?
Je pense que c'est difficile d'imaginer ce que peut être un nouveau trouble psychiatrique. On a quand même un ensemble de fonctions cérébrales qui est pas infini et qui ne va pas produire non plus des choses infinies. Et on voit ça avec Internet où on a défini des troubles de l'usage de l'Internet, mais tout ce qu'on retrouve, les addictions à pornographie, à l'achat, sont qu'une transposition d'un réel qu'on avait déjà connu et avec un média entre les deux. Moi, j'ai le sentiment que l'IA va simplement exacerber des tendances qu'on a naturellement en nous. De là à créer des nouvelles pathologies, j'ai du mal à voir lesquelles. Mais bon, on verra.
Yanis Constantinides.
Oui, je suis d'accord. Ce n'est pas un nouveau trouble psychiatrique. C'est une nouvelle version des mêmes troubles. Mais effectivement, essentiellement, c'est le rapport à l'outil. Enfin, ce qui est nouveau dans cette affaire, c'est qu'on n'a pas en face de soi une autre personne. C'est que la voix suffit. Je pense que c'est ça qui est intéressant. On le voit avec Alexa, avec Siri, etc. La voix suffit, on n'a plus besoin de voir la personne pour qu'il y ait une addiction, pour qu'il y ait une projection d'empathie, etc.
Ah, les juristes s'effaceront alors devant ces conclusions, Laura Pignatel, moi-même. Merci à vous trois encore pour cet échange.
Merci.
Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Stéphane Mouchabak, psychiatre au sein du service de psychiatrie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Yanis Constantinides, professeur de philosophie à l'école Boulle et d'éthique appliquée à l'espace éthique Île-de-France, et Laura Pignatel, maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à l'Université d'Aix-Marseille. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique Les Temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Marin Hirsinger. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À très bientôt.